Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Laurent Ganet, Éric Becker et au téléphone, Éric Guay. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, les dernières épreuves des Jeux Olympiques et notamment le cyclisme sur piste. On va parler aussi basket et athlétisme. On dressera ensuite un bilan de ces Jeux Olympiques et on débattra de la présence de certains sports à ces JO. Et nous terminerons, messieurs, par vos coups de cœur. Laurent Ganet, on va commencer par le cyclisme sur piste avec la belle médaille d'or de Benjamin Thomas sur l'Omnium. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Omnium ?
Oui, l'Omnium, c'est un ensemble de disciplines donc, pendant lesquelles le coureur doit marquer le minimum de points. Et c'est le coureur qui a donc le plus faible nombre de points qui gagne la compétition. Alors, dans ces épreuves, il y a... Si ça n'a pas changé, il y a quatre disciplines, la course au point, l'élimination.
Il y a une course en ligne, je crois, où ils sont tous.
Non, ça c'est la course au point, justement. Ouais. Il y a le scratch, l'élimination et la dernière. Alors, je ne sais pas si ça a changé, parce qu'il y a 8 ans de ça, c'était le tour lancé ou la poursuite.
A priori, c'est la poursuite. C'est encore la poursuite. Donc Benjamin Thomas nous a fait une très très belle médaille d'or. C'est la seule médaille du cyclisme sur piste français pour ces JO. Mais il a bien dominé sa compétition.
Oui, tout à fait. Benjamin Thomas, il n'est pas inconnu, hein, puisqu'il a brillé par le passé déjà dans ses disciplines. Je crois qu'il a gagné 3 fois le championnat du monde de l'Omnium. Et puis, c'est vrai que depuis 2012, il tourne autour de la médaille d'or. À chaque fois, ça ne lui a pas réussi. Et cette année, le résultat est là et il remporte cette belle médaille d'or.
Bon, c'était le bon endroit pour finalement gagner cette année. On attendait quand même d'autres performances. Enfin, on est un peu déçus. On attendait Mathilde Gros, notamment chez les filles, qui s'arrête seulement en huitième de finale. On attendait un petit peu mieux en poursuite et en vitesse, même si on n'est pas très loin. On a été habitués en cyclisme sur piste à avoir des médailles. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le niveau de nos athlètes ?
Alors je dirais que le résultat n'est pas non plus si médiocre que l'on pense, puisque, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de médailles, on est d'accord, mais les athlètes ne déméritent pas pour autant, puisque au niveau des temps, ils étaient bel et bien présents. Si je prends la vitesse par équipe, l'équipe de France a réalisé son tout meilleur temps de tous les temps. Donc, par contre, devant, il y avait une grosse équipe de Hollande, intouchable, puisqu'ils avaient une seconde d'avance sur tout le monde. Mais par contre, pour la deuxième et troisième place, les Français n'étaient pas si loin que ça. Pour Mathilde Gros, pareil, sur le plan physique, elle est présente. Je pense que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est peut-être un peu de travail mental pour qu'elle gagne en assurance et puis que ça devienne une vraie guerrière sur le vélo.
Éric Becker, vous voulez dire un mot sur le cyclisme sur piste ?
Oui, sur piste, j'ai suivi que l'Omnium, en fait. J'ai un petit peu raté le reste des épreuves, hormis la course en ligne autour de Paris. Mais voir ce vélodrome, c'est toujours un spectacle hallucinant. Hein, et moi, j'aime beaucoup la course au point, justement. Et c'est vraiment un très, très beau spectacle. Il y a du beau matériel, il y a un vélodrome qui est fantastique, des coureurs extraordinaires. Donc vraiment, moi, un beau spectacle pour les non-spécialistes comme nous.
Éric Guay, vous avez suivi ces courses de cyclisme sur piste ?
Oui, j'ai regardé la plupart des épreuves qu'on pouvait zapper dessus. Là, oui. Et, comme Laurent le signalait, j'ai trouvé une équipe des Pays-Bas extrêmement impressionnante, très très, très forte. Quoi. Et puis, bien sûr, on était heureux de la médaille française de Thomas, mais j'ai pas vu toutes les épreuves de cyclisme.
Qu'est-ce qu'on peut attendre ?
J'ai regardé le BMX par contre.
Qu'est-ce qu'on peut attendre, Laurent Ganet, de cette équipe de France de cyclisme sur piste pour dans 4 ans si on se projette sur Los Angeles ?
Comme je disais, je pense qu'il y a une autre approche à avoir. C'est vrai que pour réussir des Jeux, il faut déjà avoir une constance au niveau mondial. Aujourd'hui, pour moi, on est à notre place, puisque entre les Jeux de Tokyo et les Jeux de Paris, l'équipe de France de vitesse par équipe a souvent été dans le dernier carré. Donc on est à notre place. Comme je dis, malheureusement, ça s'est joué à rien. Pour Mathilde, c'est pareil. Mathilde a été championne du monde en 2022, il me semble. Mais entre-temps, voilà, et elle n'a pas concrétisé. Donc il lui manque encore un petit truc pour vraiment faire partie des toutes meilleures aux JO. Les JO, ça reste une compétition à part puisqu'elle a lieu tous les 4 ans. Et il faut vraiment arriver avec un capital de sérénité pour briller aux JO.
Il lui manque une grande victoire pour avoir ce capital confiance qui fait que...
Je dirais pas une grande victoire, je dirais de la constance.
La constance, ok. Eh bien, on va suivre les performances de Mathilde Gros dans les mois et les semaines à venir. On va passer sur l'athlétisme avec vous, Eric Becker, et la belle médaille d'argent, la seule là aussi, de Sirena Samba-Mayela. Sur le 100 mètres haies, qui est passé tout près de l'or, hein, à un centième par rapport à l'américaine Russell, mais devant la jamaïcaine Camacho Queen, donc une très très belle course.
Oui, tout à fait. Alors, on va dire que pour Samba Mayela, c'est la concrétisation de son talent. Par contre, il y avait une petite incertitude parce qu'elle était malade il y a un mois et demi. Elle avait eu le Covid avec des conséquences vraiment handicapantes pour elle. Donc, c'était un petit peu l'attente pour elle. Donc, je crois qu'elle est montée crescendo au fur et à mesure de séries demi-finales. Et effectivement, donc ça a été, j'avoue que sa course a été magique. Tout a marché alors qu'en série, en demi-finale, elle avait accroché un petit peu les haies et là, tout s'est déroulé parfaitement. Et comme disait Laurent, la victoire, ça se joue. Il faut que ce jour-là, tout se mette en place, tant au niveau mental, au niveau physique, etc. Et pour elle, c'était le bon jour.
Bon, mais c'est surtout qu'elle est encore très jeune et que donc ça laisse augurer des années à venir intéressantes avec des championnats du monde, avec des championnats d'Europe. D'autres JO, donc elle va faire partie maintenant du gratin du 100 mètres haies, du gratin mondial.
Tout à fait, il faut savoir que sur les haies, c'est souvent l'expérience, hein, et on a besoin d'énormément de pratiques, c'est un sport, une discipline, les haies, qui se joue à tellement peu, sur chaque obstacle, il y a 10 obstacles, et ça se joue à 3 fois rien, un demi-centimètre, et on accroche la haie, un demi-centimètre, et on passe bien. Donc, c'est une discipline qui demande beaucoup d'expérience et souvent, c'est des gens qui arrivent à maturité, on va dire, entre 27, 28, voire 30 ans. Camacho Queen, par exemple, elle n'est pas toute jeune, alors que Sirena, donc, est jeune. À l'instar de Sacha Zoya sur le 110 et chez les jeunes, il n'a que 22 ans, le garçon. Donc, on est déçu, il n'est pas en finale, mais c'est extraordinaire déjà ce qu'il fait et je pense qu'il va monter en compétence, et je pense que lui, si ça continue comme ça, pour les Jeux de Los Angeles, il sera là.
Alors, on a aussi des bonnes nouvelles côté féminin, aussi avec la belle quatrième place d'Alice Finot sur le 3000 steeple, qui s'est vraiment arrachée pour aller chercher en plus le record d'Europe.
Oui, alors Alice Finot, c'est très bien. Maintenant, elle, par contre, elle n'est pas toute jeune. voilà, donc j'avoue que je préfère... Non, c'est très bien, mais j'avoue qu'on a d'autres jeunes maintenant en équipe de France qui montent progressivement, et au-delà des déceptions, je crois qu'il faut voir cette jeune vague montante qui arrive, et ils sont quelques-uns.
On peut parler de Louise Maraval, par exemple, hein, qui a beaucoup couru sur ses JO et qui termine un petit peu lessivée sur sa finale du 400 haies, mais qui fait 5 courses.
5 courses, oui, donc, c'est ça. Donc Louise Maraval, qui est jeune, hein, qui a 23 ans et qui fait 5 courses, qui participe donc au relais 4x4, qui participe au relais 4x4 mixte, et puis qui enchaîne, qui fait ses trois courses du 400 haies et qui finit dans difficilement, hein, donc oui, c'était oui. Un peu difficile, mais il faut savoir que cette année elle a un record à 53 et des brouettes, et bon, ça commence à titiller le bon niveau mondial.
Éric Guay, vous avez suivi cette partie d'athlétisme?
Oui, bien sûr, de passionné d'athlétisme. Et moi je suis, je vais pas lancer le débat avec mes amis là, mais je suis très mitigé sur les résultats de l'athlétisme parce que j'ai suivi le débat qui s'est passé de savoir si on était un pays du sport ou pas, etc. Je pense que vous avez tous suivi ça. Hein. Oui. Et on est on excelle dans un certain nombre de disciplines, d'ailleurs dans beaucoup de disciplines. Moi, c'est peut-être mon côté ancien professeur d'éducation physique, mais je considère l'athlétisme comme vraiment un sport de base. Et ce qui montre qu'on n'a pas encore véritablement une politique sportive établie au niveau de la pratique scolaire, de la pratique et du suivi fédéral comme ça peut exister aux États-Unis ou ailleurs, où c'est vraiment la base de la base. Hein, c'est, tout passe par l'athlétisme dans les écoles, les universités américaines ou autres. Et là, il y a véritablement... Si on se pose le problème de savoir si on est un pays sportif, eh ben il y a des disciplines qui sont incontournables pour moi, qui vont ouvrir sur d'autres disciplines après pour les athlètes, et l'athlétisme en fait partie. Et je suis un petit peu entre guillemets déçu des résultats, même si je bien sûr je suis très heureux des performances des individualités. J'attendais un peu plus de Tual, peut-être, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a d'énormes...
Qui termine sixième sur le 800 mètres.
Voilà, et qui, à mon avis, peut titiller le niveau mondial sans problème. Voilà, c'est la réflexion que je me faisais quand je voyais tous les athlètes passer, et je me disais, on est peut-être pas suffisamment, ou on n'a pas suffisamment de présence athlétique pour se dire véritablement un pays du sport, même si on est super heureux de tous les résultats qu'on a eu, bien sûr.
Alors le sujet que vous évoquez, Eric, c'est un sujet intéressant qui pourrait faire l'objet d'un débat, mais juste pour terminer peut-être là-dessus, c'est une transition qu'a très bien réussi le handball, par exemple, qui depuis 92 réussit des performances au plus haut niveau mondial, et qui est à la base en France un sport issu de l'UNSS. Est-ce que l'athlète ne s'est pas structuré en conséquence par rapport à ce qu'a pu faire le handball?
C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui l'offre sportive est très importante, alors qu'avant elle était quand même beaucoup plus réduite. Et donc l'offre sportive étant très importante pour la jeunesse, c'est tant mieux. Hein, ça permet une immense diversité. Et il se trouve que quand on regarde les résultats qu'on a fait, qui sont absolument remarquables quand même, on est présent dans énormément de disciplines. Et moi, ça me gêne qu'on soit pas plus présent dans l'athlétisme, parce que c'est la présence dans l'athlétisme, c'est le véritable reflet de la politique qui est mise en place au niveau national, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, et c'est ça qui donne le temps pour l'ensemble de toutes les autres disciplines. Alors ma réflexion est peut-être vieux jeu, j'en sais rien, mais bon, on le concevait comme ça dans notre conception quand on enseignait.
C'est un sujet sur lequel on pourra revenir en fin d'émission, puisque le débat sur la professionnalisation du sport et la comparaison qu'on pourrait faire avec comment sont traités les athlètes aux États-Unis pourrait être intéressante. On va juste reprendre le fil des résultats de l'athlétisme. Du coup, on a parlé de Sacha Zoya, donc qui a pas pu se sortir des demi-finales en 110 mètres haies. On a une petite déception sur les heptathlons aussi avec Oriana Lazrak Klass. Oui. Qui fait seulement 16e et qu'on attendait un peu mieux, Eric Becker.
Oui, effectivement, on attendait un petit peu mieux, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'elle soit ratée complètement. Hein.
On l'a sentie inhibée sur les premières épreuves quand même, elle avait du mal à se libérer.
Voilà, un petit peu à l'instar de
Mackensen.
De Mackensen, hein, pareil, qui a un petit peu mangé ses trois premières épreuves. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Et puis, quand on n'est pas sur une pente ascendante, c'est gérer les 10 épreuves, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être un petit peu...
Et la pression du public,
voilà,
peut-être. On sent que quand on ne réussit pas...
La pression de l'événement, voilà. Certains l'ont très bien géré, ont été sublimés, et d'autres ont été légèrement dedans. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui soient complètement passés à travers. Donc, comme disait tout à l'heure Laurent, à l'instar du cyclisme, ils sont à peu près à leur place, hein, à quelques exceptions près.
Bon, qu'est-ce que vous retenez de cette deuxième semaine, enfin la première semaine n'est pas complète, mais cette deuxième semaine d'athlétisme où il y a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves. Quels sont les faits marquants pour vous de cette semaine d'athlétisme, Eric Becker?
Bon, pour moi, c'est à Armand Duplantis, hein, donc une telle domination, et puis il a fait le spectacle. Il a fait le spectacle pour tout le monde, parce qu'il n'est pas obligé de tenter un record du monde à 6,25. On sait que derrière, derrière, il y a des enjeux aussi financiers pour lui. Et bon, il a fait le spectacle pour tout Paris, pour tout le stade, pour le monde entier. C'était extraordinaire.
6,25, record du monde, nouveau record du monde en JO. C'était jamais arrivé. Moi, je me souviens de Boubka qui avait beaucoup de problèmes au JO parce qu'il a un temps, il avait un temps pour sauter, alors que là, Duplantis gère ça au millimètre. On peut noter aussi une razzia des Américains. Ça a été, je crois que c'est 34 oui. médailles sur 34 médailles sur l'ensemble des compètes d'athlétisme. C'est quand même, ils ont été omniprésents, Eric Gué.
Oui, et puis Olivier surtout, une finale du 100 extraordinaire. Il faut pas oublier. Quoi. Je sais plus combien. Je crois que les 8 athlètes en dessous de
9,92. Oui.
En dessous de 9,92, c'est quand même absolument fabuleux. Je rejoins Eric sur la performance de Duplantis. On est bien sûr tous étaient émerveillés. Et puis bon, on attendait, je pense, qu'il fasse quelque chose parce que lui-même, on le sentait qu'il avait envie de faire quelque chose. Il avait commencé aux Europes là. Et puis ensuite, il avait essayé de poursuivre. Mais moi, la finale du 100 mètres, elle restera marquée. Hein.
On a aussi, si on revient un petit peu sur le résultat des Français, on a quand même des finales en relais. Sur tous les relais, on est en ouais. finale. On fait une belle quatrième place sur le 4x100 chez les filles. Voilà, le 4x4 chez les garçons se fait sortir là, par le Sud-Africain de manière un peu... C'est plus qu'un fait de course,
oui.
je pense.
Oui, là, je crois qu'il s'est fait un petit peu balancer, là. Je ne sais pas, je ne connais pas les conclusions.
Il n'y a pas eu de disqualification,
a priori. Pas eu de disqualification. Bon, écoutez, donc c'est un petit peu violent. Mais alors, souvent, donc, les relais, ça montre un petit peu la vitalité.
La densité.
La densité de l'athlétisme. Et je pense que c'est plutôt bon signe de voir ces relais qui se requalifient, parce que souvent... On passait pas en finale. Donc souvent, ouais, 4x100.
Quand même, hein, c'est pas mal.
Comment ?
5 sur 5, quand même.
Oui, oui, ouais. C'est pour ça. Donc, ça fait une petite, un petit espoir pour la suite, même si ça, je rejoins Eric quand il dit ben voilà, on n'est pas une grande nation d'athlétisme, de toute façon. Et je le rejoins aussi sur le fait que. On a émietté un petit peu l'espoir chez nous dans l'EPS et qui fait que effectivement l'athlétisme n'est plus du tout le sport numéro un. Avant, essentiellement, les athlètes étaient souvent repérés par les profs de PS. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Hein. Donc, les profs de PS sont tellement diverses maintenant, à l'instar de tous les sports, que c'est difficile de recruter. L'athlétisme recruté essentiellement dans le milieu scolaire. Maintenant, c'est uniquement les clubs, à l'instar du judo ou des sports collectifs.
D'autres sports.
Non, mais dans les écoles, on doit faire de l'EPS, de l'éducation physique et sportive. Et l'éducation physique et sportive, on fait pas des sports. C'est après que les sports viennent. Mais la base des sports, c'est les sauts, les courses, hein, et on sait ce qui donne la qualité athlétique d'un sportif qui ensuite va se diriger vers un sport, l'athlétisme ou un autre sport. Voilà, c'est une conception peut-être rétrograde, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on veut faire un gamin qui est tout jeune, on veut déjà l'orienter sur un sport.
Eric, je vous sens motivé pour retourner sur le terrain.
Non. C'est la passion, pardon.
Mais allez-y. Alors, moi, je voudrais qu'on dise un mot sur ce marathon pour tous, qui est une idée de génie d'avoir permis à tout à chacun de participer à ce marathon. Ça a donné des images fabuleuses. On a vu des gens arriver dans la nuit, passer devant la Tour Eiffel illuminée. Enfin, on a vu des images extraordinaires.
Oui, ça, je trouve, ça a été une idée extraordinaire entre le marathon homme et le marathon femme de lancer ce marathon populaire. On se demande où ils ont trouvé l'énergie de faire tout ça, le comité d'organisation. Parce que quand on voit, vous imaginez 42 kilomètres de barrière à poser Voilà, donc ouais. C'est un petit truc tout bête, mais...
C'est la même logistique qui avait été déployée sur la course en ligne du vélo.
Donc ils ont profité du fait que les installations soient en place et pour organiser quelque chose et... qui a marqué les gens.
Et voilà, permettre à monsieur tout le monde ou madame tout le monde de participer à une course et la course mythique des Jeux Olympiques, le marathon, c'était vraiment extraordinaire. Eric Gué.
Ah oui, c'est génial. Je vais dire à Eric, c'est pas 42 km, c'est 84, hein, c'est pour un mètre de chaque côté. Hein.
C'était sous-entendu.
On va passer au basket, Eric Gué, avec deux finales qu'on espérait, mais qu'on n'attendait pas forcément, surtout chez les garçons, après des débuts un petit peu balbutiants. Un France Team USA à chaque fois, et puis ça passe pas très loin à chaque fois. On va commencer par les garçons.
Ah, c'était... On va quand même être super content du résultat, parce que parce que on avait une équipe avec des petits morceaux de gauche et droite. On a fait une préparation catastrophique sur 5 matchs. On en perd 4. On n'arrivait pas à coller, n'arrivait pas à faire tourner l'ensemble de l'effectif et intégrer Wembanyama complètement. Le duo Gobert-Wembanyama, ça marchait pas en intérieur. Fournier, un coup il est là, un coup il est pas là. Donc c'était très compliqué. Puis en fin de compte, c'est là qu'on voit la magie de la compétition. En fin de compte, l'enjeu d'une compétition, hein, parce que de ce moment-là, il y a autre chose. Il y a un autre rouage qui se met quand tout est bien préparé dans un staff. Et puis ils sont rentrés en compétition. Voilà. Et pour moi, le vrai match de référence qui c'est la victoire sur le Canada. La victoire sur le Canada, c'est une vraie victoire. Les États-Unis, bon, il y avait la possibilité de passer. Peut-être qu'on aurait toujours mieux abordé, mais c'est toujours facile de le dire après, les trois dernières minutes. On a du mal quand même à gérer, que ce soit en homme ou en femme, les moments...
Le money time.
On peut appeler ça le money time. Mais même à l'intérieur des cartons, on mène de 10 points chez les femmes. Mmh. On mène de 10 points. C'est extraordinaire. Et on n'arrive pas à conserver les 10 points, on perd par précipitation, on veut aller plus vite que la musique, on n'arrive pas à calmer le jeu, parce qu'on n'a pas... On joue sans meneuse, hein. Il faut reconnaître qu'on joue sans meneuse. Hein. On n'a pas une véritable
mascotte, oui.
Mis à part Williams qui est au four et au moulin, mais on n'a pas une véritable meneuse qui temporise, qui tourne, qui accélère, etc., qui fait. Et c'est un petit peu ce qui nous manque. Plus, on attend le quatrième carton pour avoir le premier lancer franc. On n'a pas joué, on a les trois premiers cartons, aucun lancer franc tiré.
C'est ça.
Ça devait être unique dans le basket.
Beaucoup de shoots longue distance et pas forcément beaucoup de réussite.
Oui, puis des shoots un peu casse-croûte, c'est-à-dire qu'on n'est pas véritablement dans la position, on est dans les 4-5 secondes de shoot, c'est très très... Alors quand ça marche, le fameux shoot de
photo. Ouais.
Bien sûr, il est magnifique, il n'y a pas à dire ça, mais ça, on ne renouvelle pas 150 fois. C'est vraiment dommage. Et moi, j'ai trouvé quand même que les équipes des États-Unis, ou hommes et femmes, ne m'ont pas extrêmement impressionné, en dehors du fait des individualités comme Curry ou Durant, ou LeBron, mais ça on savait. Mais par contre, l'équipe qui m'a vraiment impressionné, moi, c'est la Serbie. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une belle équipe. Alors, on a eu de la chance qu'il ne soit pas dans notre tableau et qu'il nous a permis d'aller en finale, mais il fallait quand même éliminer le Canada dans ce tableau-là, et ça, c'était pas évident.
Et ça venait surtout après le coup de gueule d'Evan Fournier qui s'est plaint dans la presse du système défensif un petit peu et du fait que Collet insistait un peu trop là-dessus. Ça a été quand même, je pense, un événement important, ça, non?
Oui, ça a été un événement important, mais moi je pense que il a solutionné le problème. Et l'intelligence de Collet a quand même été à un moment donné de dire bon, j'ai essayé X fois Gobert ou Wembanyama, ça marche pas. Mis à part 2-3 passes, voilà. Wemby, pour jouer, il a besoin d'être soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, parce que c'est un joueur qui est capable de shooter à 3 points, alors que Gobert peut pas nous mettre de panier à 3 points, ou alors c'est l'opération du Saint-Esprit. Mais lui, il peut apporter des points à 3 points. Il l'a pas trop fait sur l'ensemble de la compétition, c'est dommage. Mais surtout en finale, il en a mis un quand même. Voilà. Mais on a quand même tenu tête à ces équipes de stars là, US là, qui sont des sommes d'individualité, mais pas véritablement des collectifs. Mais comme c'est des telles sommes d'individualité, ils ont quand même des marges. Mais ils se sont fait peur quand même, surtout les filles. Les filles, je pense qu'à un moment donné, elles se voyaient passer à la table, les Américaines.
C'est ça. Comme vous le dites, chez les garçons, on sentait qu'il y avait un peu de marge. On a vu hein, Steph Curry, quand il a fallu enchaîner les paniers à 3 points, il les a enchaînés en 2 minutes, il en a mis 3. Donc... il a un peu glacé tout le monde, mais on sentait que les filles étaient vraiment très près, quoi.
Hein. Là, Olivier, je m'excuse. Moi, pour le spectacle et puis pour tout le monde, c'est extraordinaire. Mais à ce niveau-là, c'est ce qui fait la différence entre une équipe de très haut niveau et une équipe de haut niveau. Un mec qui nous met en 2 minutes 30 12 points, 4 paniers à 3 points, pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut faire une boîte sur le bonhomme. Et là, même si les shoots qu'il a pris ne sont pas faciles. Attention, hein, il a fait des beaux shoots. Mais on n'a pas véritablement... On sait que c'est lui le danger. Il ne joue pas. Vous regardez le match, il ne joue pas le troisième carton.
C'est vrai. Donc, alors en même temps, le danger vient un peu de partout dans cette équipe quand même.
Ah, c'est sûr. Que si Curry n'avait pas pris les choses en main, je pense que Durant, il les aurait pris. Et puis on a Hooker, Holiday à côté qui peuvent aussi aligner à trois. Oui, mais nous, on a des shooters à 3 points. Batum, il peut shooter à 3 points. Fournier, il peut shooter à 3 points. Del Colo, il peut shooter à 3 points. On peut répliquer aussi. Hein. C'est pas là le souci. Le souci, c'est qu'on sait qu'en face, on a un extra shooter. Parce que lui, il shoot pas à 6, machin, là. Il shoot à 8, 9. 9 mètres, là, c'est sa distance, ben, à 9 mètres, il faut défendre. Sauf que dans le basket français, 9 mètres, on ne défend pas trop. On défend dans les 7 mètres, 7 mètres 50, mais on ne défend pas dans les 9 mètres. En NBA, ils défendent dans les 9 mètres.
Hein. Oui. Alors, on va compléter ce bilan de basket. On va reparler quand même de la superbe médaille d'argent du 3-3 en masculin. Il faut pas oublier cette nouvelle discipline qui est quand même très, très rythmée. On les voit, hein, ils sont que 4 pour jouer à 3 sur le terrain, donc ça tourne très très vite et on est passé tout près là. Le joueur du Pays-Bas met un panier en shoot arrière, déséquilibre arrière, presque miraculeux, mais ça passe et ça nous amène à la médaille d'argent.
Oui, là, franchement, l'équipe de 3-3, bravo. Comme attention, l'équipe femme, moi, je leur tire un grand coup de chapeau quand même, hein, parce que c'est véritablement un exploit qu'elles ont fait, hein, nos filles, hein, d'accord. Johannes, elle nous amène pas les points. Pour moi, elle a pas été dans le match. C'est dommage, comme elle a été en quart. Mais bon, le 3-3, pour revenir dessus, c'est magnifique. Ils ont été, ils ont joué leur match quand ils ont battu la Lettonie qui était championne olympique. Hein. Donc là, c'est là qu'ils ont eux aussi fait véritable espoir comme les garçons contre le Canada. Et après pour les Pays-Bas, ils ont fait le match qu'il fallait. Il y avait pas grand chose à dire. Après, on peut dire oui, on pouvait marquer dernière seconde du temps réglementaire, panier, mais c'est comme ça. Et puis voilà.
Ouais. Bon, on, comme ça, il nous reste une marge de progression pour dans 4 ans.
Oui, tout à fait.
On va passer, si vous le voulez bien, messieurs, au bilan de nos athlètes calédoniens. On espérait un peu mieux. On revient finalement avec une seule médaille, celle de Maxime Grousset au 4x100 mètres masculin. Quel bilan, Eric Becker, vous tirez de nos athlètes calédoniens sur ces jeux? Alors il y a Bassa Mawen en escalade. On avait donc Maxime Grousset, on avait Thomas Goyard,
Yolène,
voilà.
Oui, alors effectivement, le rugby à 7, ça se joue.
Est-ce que c'est pas ça la vraie déception finalement?
Si, je crois que là on avait quelques regrets parce qu'on visait franchement l'or. Et bon, on est passé un petit peu à côté. Hein. Donc ça, c'est pour le sport collectif. Pour Nicolas Goyard, effectivement, on attendait beaucoup mieux. Il a fait de grosses erreurs sur une manche. Et après, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu déstabilisé et pas mis en confiance pour la suite. Hein. Il faut savoir que... En foil, on se loupe, ça va tellement vite que si on se loupe sur un petit truc, ça va très très vite. Et après, c'est difficile de faire le retard, de courir.
Dommage, il avait gagné la première manche. Hein.
Oui, tout à fait. Il avait gagné la première manche, mais après, il a fait il a eu un problème sur les suivantes. Et après, c'est le manque de confiance. Hein. Une fois qu'on n'est plus en confiance dans sa compétition, ça devient compliqué. Sur les départs, on peut plus prendre de risques, etc. Donc, ça s'est un petit peu mal terminé parce qu'on avait effectivement de gros espoirs. Même si le niveau en foil avait extrêmement monté dans ces deux dernières années, et il était plus Nicolas gagnait toutes les courses quasiment. Et sur la fin, sur les 6 derniers mois, on sentait bien que le niveau était en train de monter et la concurrence était en train de s'affirmer également.
Laurent Gagné, sur le bilan de nos sportifs calédoniens.
Écoutez, oui, je pense qu'on aurait espéré mieux, bien entendu, hein, en tant que spectateur. On préfère que nos cagoules brillent. Malheureusement, nous sommes aux JO. Les JO, c'est très relevé. Il y a de plus en plus de densité. On a vu un Maxime Grousset qui a quand même atteint 3 finales. Ce n'est pas rien. comparé à 2021, il y a quand même une progression, où il n'avait fait qu'une seule finale. Il lui a manqué encore un petit truc. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas mis la pression? Je ne sais pas. Puisqu'on voit sur le 100 mètres pape, il part vite et il a du mal à revenir. Et sur le relais, sur le 100 mètres pape, il nous fait un super 100 mètres pape. Donc, c'est bien la preuve qu'il était présent physiquement, encore une fois. Je pense qu'il a manqué un petit truc sur le plan psychologique. Donc, à travailler pour l'avenir. Après, il y avait...
Emma Terebo,
oui, pareil, en natation. Emma Terebo, je pense qu'elle a fait, par rapport à ses qualités, puisque jusqu'à présent, Emma... Alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais... n'a pas fait de podium au niveau international. Donc, c'est compliqué d'arriver au JO et de dire « je prétends un podium ». Encore une fois, on parle des JO. On parle pas d'un championnat du monde. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de densité et il faut d'abord arriver à performer au niveau mondial pour prétendre à faire une médaille au JO. Et c'est malheureusement le cas dans toutes les disciplines. Il arrive rarement que des athlètes n'aient jamais rien gagné et gagnent au JO, mais ça arrive très rarement.
Donc nos sportifs calédoniens sont à leur place finalement, Éric Guay.
Oui, moi j'ai la même analyse que Laurent, là, sans problème. Après, je tire mon coup de chapeau quand même à Emma, parce que rentrer dans les 8, mes 8 finalistes mondiales, c'est quand même pas rien, hein, dans sa discipline. Donc après, bien sûr, aller sur le podium, c'est une autre histoire. C'est vrai que Maxime, on était toujours, parce que c'était pour nous véritablement le seul qui était sur lequel on pouvait espérer un petit peu mieux, on va dire, qu'une médaille de bronze. Mais je pense que c'est un athlète qui était un peu en transition là à Paris. C'était pas véritablement le moment. En plus, le focus était tellement tout ça, que voilà, et je pense que s'il continue enfin s'il poursuit ça comme il le fait là, je pense qu'en 2028 ça va être un performeur de l'équipe de France.
Oui, surtout moi je pense que Maxime, pour moi, c'est lui qui fait quasiment gagner le relais 4 fois mixte, hein, parce que franchement, s'il prend pas cette avance, Manodou, il conserve la 3e place, mais ça, c'était pas c'était avec juste. Une grosse avance. Donc c'était juste. Donc moi je dis merci Maxime.
Il fait un temps canon.
Faut qu'il retienne ça et pas qu'il reste sur la déception du 100 mètres.
Ouais, tout à fait.
Alors après le bilan de nos cagots, on va passer au bilan français. 5e du bilan des médailles avec 64 médailles, 16 médailles d'or, 26 médailles d'argent, 22 médailles de bronze. Le record de Pékin 2008 largement battu, qui était de 43 médailles. On ne parle pas de Paris 1900 où il y avait 102 médailles. C'était un autre contexte. Belle performance. Donc c'est forcément un bilan satisfaisant. Claude Onesta, j'ai vu une interview de Claude Onesta qui était extrêmement satisfait. Laurent Gannet.
Oui, tout à fait. Je rejoins l'avis de Claude Onesta quand il dit que on a gagné 16 médailles d'or. On a fait 14 finales où on aurait pu gagner aussi des médailles d'or. Donc, il n'a pas manqué grand-chose. Mais encore une fois, on est en finale, mais on a du mal à concrétiser. Donc, je pense que c'est une piste de travail pour l'avenir. Souvent, on se retrouve, mais on n'arrive pas à matcher. À l'instar du basket, comme on dit, alors que on a beaucoup de joueurs français qui évoluent aux États-Unis, pourquoi on n'arriverait pas à battre les Américains? Donc je pense qu'il y a encore un petit complexe au niveau français de ce côté-là, et il faut vraiment travailler dessus pour pouvoir concrétiser à l'avenir.
Éric Guay, pardon, j'ai deux Éric.
C'est exact, Laurent. Voilà. C'est quand même magnifique, hein, 64 médailles. Je regardais s'il n'y avait pas l'histoire de l'or, on était à la 3e place quand même au total des médailles. Hein. D'accord.
C'est donc, ça. En nombre total de médailles, la France est 3e.
Quand on prend l'or, on est 5e, et puis en nombre de total, on est 3e, c'est ça. Mais on est quand même devant les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, enfin l'Italie, l'Allemagne. C'est pas rien quand même. Hein,
Mais derrière l'Australie, Eric.
Et derrière l'Australie, oui. Ça m'embête un peu, ça.
Alors, pas en nombre de médailles, mais en nombre de médailles d'or, oui.
Voilà. Mais...
Après... Oui, Laurent.
Après, je voudrais juste revenir sur un petit point. C'est par rapport à la politique sportive. On voit que ce que Claude Onesta a mis en place, il a vraiment mis en place un projet de performance et ça finit par payer. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand pas en avant, mais si cette politique sportive pour le haut niveau continue, je pense qu'en 2028, on sera encore meilleur.
On peut faire.
Mais Laurent, mais il ne faut pas oublier la base aussi.
Non, mais bien entendu, on est bien. Non, mais on est bien d'accord, Eric. C'est toute une. Aujourd'hui, le sport n'est pas forcément reconnu en France. Le métier de sportif n'est pas reconnu, alors qu'aux États-Unis, être sportif professionnel, c'est un métier. Aujourd'hui, en France, c'est plus, on va dire, enfin, c'était jusqu'à présent plus du loisir.
On peut faire, messieurs, un petit focus sur les sports co qui ont, comme à Tokyo il y a 3 ans, un très très bon bilan. Les volleyeurs, on n'en a pas parlé, mais les volleyeurs ont fait un back-to-back extraordinaire. Ouais. Le basket fait 2 finales, le hand fait 1 finale chez les filles, le foot fait 1 finale chez les garçons, donc, et le rugby, j'ai oublié le rugby fait aussi le titre chez les garçons. Donc on a quand même un sport co en forme.
Alors on a un sport co en forme, Olivier, c'est clair, et on est bon dans toutes les disciplines collectives. Alors là, je ne sais plus comment elle tape, j'arrive pas à prononcer son nom, de la petite du 100 qui a gagné la médaille d'argent au 100 et là.
Samba Mayela. Sirena Samba Mayela.
Samba Mayela.
J'ai trouvé qu'elle avait fait une analyse très intéressante. En disant que ce que vient de dire Laurent, en fin de compte, c'est que on est trop complexé par rapport aux autres équipes par moment, et on a l'impression que dans les money time, dans les moments importants, etc., ou peut-être qu'on n'est pas, on n'utilise pas suffisamment la préparation mentale, psychologique, etc., qui maintenant fait partie intégrante du sport de très haut niveau, quoi, hein, et on reste entre guillemets dans des moments très importants, un peu en dedans, ce qui fait que sur ces 26 médailles d'argent là, il y avait peut-être 3-4 médailles à aller chercher. Là. Au football, on prend le 5e but vraiment, alors qu'on a la possibilité de revenir encore à 4-4 à égaliser. Et je sais pas, il y a quand même un petit blocage entre guillemets. Hein, je sais pas si c'est un ressenti comme ça quand on regarde ça. Et ça, c'est à passer ce que n'ont pas les Américains. Peut-être eux, c'est un peu trop exubérant, entre guillemets, ou alors une sûreté de telle, mais ça leur permet de performer. Voilà. Donc on a peut-être besoin de passer et de travailler ça et poursuivre le travail que Conesta a fait.
C'est ça, il lui reste un axe de travail, visiblement. Messieurs, on va terminer cette émission par vos coups de cœur. On va commencer par vous, Eric Guay.
Je vais rester sur la médaille d'argent des filles.
Ok. Eric Becker.
Bien, moi, alors, comme il a choisi la médaille d'argent, je vais choisir la médaille d'or, la double médaille d'or du volleyball, double champion olympique, c'est quand même pas rien.
Avec la manière.
Avec la manière.
Laurent Ganet.
Moi, ce sera la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot, puisque c'est une très grande championne. Et ouais. Elle courait depuis un moment pour gagner cette médaille d'or. Respect à elle parce qu'elle l'a fait avec la manière.
Désignée avec Antoine Dupont pour être porte-drapeau de cette cérémonie de clôture. Messieurs, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.